Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ой, кажи мені, дівчиночко, де мій розум діла? Чи в березу, чи в тополю його залетіла?
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au cinéma asiatique. Cinéma asiatique qui n'a de cesse d'être honoré par les éditeurs ces derniers temps. Donc on est obligé un peu de regrouper tout ça dans des émissions. On prend même un peu de retard sur les sorties parce que, puis en plus il y a les vacances qui arrivent. En tout cas, on est obligé de regrouper tout ça dans des émissions et d'essayer de vous proposer un maximum de choses dans toutes les pépites là, qui sortent. Alors aujourd'hui, on a fait une petite sélection des dernières parutions de chez Carlotta Film, à savoir Les Chevaux de Feu, un film de 65 signé du réalisateur arménien Sergei Paradjanov. On va aussi vous parler de Mantan, un film de 76, une fable indienne de Siam Benegal. On va vous parler de trois films qui mettent en vedette le regretté Leslie Cheung, star HK décédé en 2003 à seulement 46 ans. Il y aura Jeune Rêveur, un film de 82 de Clifford Choi, La Jeune Fille Dragon, un film de 83 de Hua Shan, Métro Romance, un film de 84 de Taylor Wong. Et on parlera aussi du coffret Anhui, qui réunit trois films alors, dont nous avons déjà parlé dans l'émission. Hein, The Secret de 79, Bad People de 82, Love in a Fallen City de 84. Mais surtout, il y a un inédit de 2023, et on reviendra plus en détail dessus, qui s'appelle Élégie. On parlera aussi de Macho Dancer, d'un cinéaste qu'on aime bien dans l'émission, un film de 88 signé du Philippin Lino Broca. Et puis enfin, on fera une dernière partie sur quelques sorties robotofilms, à savoir L'Homme Invisible, les films d'Aei qui réunit sur la même galette L'Homme Invisible apparaît, film de 49 de Nobuo Adachi, et L'Homme Invisible contre la Mouche Humaine. J'adore ce titre. Un film de 1957 de Michio Murayama. Je vous parlerai aussi d'un petit film de souvenirs de vidéoclub, Les Monstres de la Préhistoire, un film de 77 de Junji Kurata. Et enfin, on abordera le coffret Torasan, le coffret 1 qui couvre les années 69-70 et qui contient C'est dur d'être un homme, Maman chérie, Le grand amour, Le millionnaire et La nostalgie. Vous ferez connaissance avec ce personnage qui est Torasan. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver et Lucie Mautier pour leur aide sur cette émission. Et pour causer cinéma asiatique, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux plus fidèles acolytes qui me suivent dans mes pérégrinations cinéphiles depuis maintenant fort longtemps. Je veux bien sûr parler de Damien Domédy, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Rolandi, le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Jérôme et bien évidemment, salut à toutes.
Mon cher Thomas, puisque tu as la parole, d'ailleurs tu m'as un peu sauvé la mise car je ne savais pas trop comment inclure ce film dans une programmation. Tu m'as dit, mais si le réalisateur est arménien, on peut inclure ce film dans une spéciale cinéma asiatique. Je veux bien sûr parler des Chevaux de Feu, Les Chevaux de Feu de Sergei Paradjanov, qui est sorti là chez Carlotta Film, mon cher Thomas, qui est un film dont toi tu m'as vanté quelque part la flamboyance, la dinguerie. Enfin, je te laisse en parler.
Oui, d'ailleurs, un grand merci à Carlotta Film d'avoir ressorti le film sur grand écran. J'ai pu revoir le film sur grand écran. Et puis maintenant, on peut le revoir en Blu-ray dans d'excellentes conditions. Hein. Donc, Les Chevaux de Feu est un film signé Sergueï Parajanov en 64. Et un film qu'il renie un peu parce qu'il avait fait une version plus longue qui s'appelle Les Ombres des Ancêtres Oubliés. Et c'est un film qui est tiré de l'œuvre de Mikhaïl Kozioubinski. Un conte qui met en scène des bergers et des bûcherons des Carpates ukrainiennes. Donc ça raconte l'histoire du jeune Ivan qui tombe amoureux de la fille du meurtrier de son père au sein du peuple Ouzoul en Ukraine. Considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, et c'est un chef-d'œuvre de toute façon, et un classique du cinéma soviétique, Les Chevaux de Feu est pourtant désavoué, donc, comme je viens de le dire, par Parajanov, parce qu'il a été raccourci contre son gré, mais aussi parce qu'il ne correspond pas au cinéma non-narratif auquel il aspire. Quand on voit ses autres films, on comprend un peu, notamment Sayat Nova, qui est un autre chef-d'œuvre aussi. Poétique et foisonnant, le film le plus connu de Sergueï Parajanov bénéficie d'une trame linéaire découpée en plusieurs chapitres qui retrace la vie tragique d'Ivan, paysan accablé par le destin et mis au ban de sa communauté. À première vue, l'histoire ressemble à une variante de Roméo et Juliette transposée dans les Carpates. Pourtant, le film prend rapidement une autre direction. En plus de décrire les us et coutumes des Ouzoul, les rivalités entre deux clans et une histoire d'amour impossible, il adopte une esthétique colorée avec une caméra virevoltante et une mise en scène emphatique qui accentue une atmosphère poétique, onirique, étrange, pour ne pas dire inquiétante. Le réalisme n'a pas sa place dans ce conte violent dans lequel on peut croiser des fantômes et des rituels mystiques. Pour autant, ces éléments fantastiques restent en périphérie et l'intrigue se concentre sur le destin d'Ivan et ses tourments, qui peut se voir comme une parabole du peuple Ouzoul. Car même si Sergueï Parajanov l'a désavoué, sous la beauté plastique du film au romantisme sombre et pessimiste, se dessine une œuvre politique. Il a fait le choix de tourner le film en dialecte Ouzoul et de ne pas le doubler en russe, ce qui provoqua l'ire des autorités de Moscou. Population montagnarde des Carpates ukrainiennes, les Ouzoul ont farouchement combattu les Soviétiques après septembre 1944. En mai de l'année suivante, les Soviétiques ont annexé la région, mais les Ouzoul ne se soumirent jamais complètement. De là vient la confusion par certains historiens du cinéma qui considéreront les Chevaux de Feu comme un exemple de cinéma ukrainien, alors que d'autres le qualifient de production arménienne. Malgré tout cela, Les Chevaux de Feu reste un grand film, un chef-d'œuvre de poésie et l'un des films les plus accessibles de Sergueï Parajanov. Et on espère, enfin tout du moins j'espère, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'autres personnes certainement, que Carlotta va aussi éditer Sayat Nova, l'autre grand film de Sergueï Parajanov, qui est là complètement... pas du tout narratif, hein, contrairement aux Chevaux de Feu. Mais précipitez-vous sur ce Blu-ray des Chevaux de Feu, vous n'allez pas le regretter, c'est un film magnifique.
Іва!
Марічко!
А я піду в полонину, до старостаю.
Autre film sorti chez Carlotta Film, là, je vais me tourner vers Damien, un film là, plus une sorte de film social en fait, on peut le dire comme ça, c'est Mantan de Shyam Benegal, qui est un film indien, qui est... film de 76 qui dure plus de deux heures et qui raconte l'histoire d'un vétérinaire un peu idéaliste qui se rend dans une région rurale pour monter une coopérative laitière et ça va pas forcément se passer comme l'avait prévu le jeune idéaliste. Voilà.
Ce qui m'a surpris dans Mantan, c'est en fait après coup quand j'ai appris que c'était inspiré d'une histoire vraie, parce que comme tu l'as bien dit Jérôme, on a le docteur Rao qui est en fait vétérinaire, qui arrive dans un village. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, bah, y a des castes, et que c'est des castes qui sont très rigides, des castes sociales, ce qui fait que ceux qui sont le plus en bas, on les appelle les intouchables, et en fait c'est eux qui vont servir de manne ouvrière un peu à toutes les autres castes. Ici, il y a un enjeu qui va être particulier, c'est que ce docteur arrive, leur dire qu'ils peuvent créer une coopérative laitière, c'est-à-dire qu'ils pourraient vendre créer une sorte d'association et vendre leur lait spécialement pour qu'il soit fait pour Uber. Ils auraient le contrôle du prix, un peu du transport, de la gestion. Et face à eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont, pour eux, ils disent oui, mais ok, on va créer une corporation, mais quelle caste va nous diriger? Est-ce que ce sera vous le leader? Et il y a toute une incompréhension d'un système de soumission qui a été mis en place durant des années, qui se retrouve face à une modernité. Modernité qui arrive comme un choc, parce qu'il faut dire que le docteur, il arrive de la ville, il a cette idéologie de créer des groupes communautaires qui puissent s'en sortir par eux-mêmes sans être soumis à quelqu'un, alors qu'eux ne comprennent pas leur système dans lequel ils ont toujours vécu. Et durant un temps, ils se disent, oui, mais si on crée cette coopérative, c'est lui qui va prendre la main, nous, ensuite, on aura juste à lui donner. Et en fait, non, c'est vraiment eux qui doivent se prendre en main. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être que ces casques qui avaient l'avantage sur les intouchables, ils vont essayer de garder ce pouvoir, et comme tu l'as évoqué, Jérôme, on se retrouve avec un film profondément social qui en fait prend la société indienne en photo, sa vie dans la campagne, la manière dont elle se gère, et essaye de proposer quelque chose qui vient changer tout ça. Mais c'est très compliqué, parce que cette idée de coopérative, elle est vraiment très compliquée à mettre en place. Il y a beaucoup de méfiance des villageois et surtout des intouchables vis-à-vis de ça. Le titre Manthan, il renvoie à un titre assez simple, c'est de l'hindi qui veut dire le barattage, qui est la transformation au beurre, parce que il va servir à ça en fait, le lait, à l'intérieur du film. C'est un film qui est totalement anti-cliché de ce qu'on peut s'imaginer du cinéma indien, surtout si on prend le cinéma indien international des dernières années. Il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de la musique à tout va, il y a quand même une musique qui revient de temps en temps. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est le réalisateur Shyam Benegal, qui est issu du milieu publicitaire, mais qui arrive à faire des plans très très beaux. Il a un truc qu'il aime bien faire, c'est en fait fixer un personnage qui regarde un autre personnage et faire bouger l'autre personnage pendant que l'autre le regarde. Ça crée des mouvements de caméra très doux, mais ça crée aussi des scènes où on a un silence qui accompagne les personnages et qui accompagne la réflexion des personnages dans lesquels on se trouve. Pareil, la caméra et la sélection des couleurs, elle est assez belle. On a un contraste de couleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des couleurs qui se séparent les unes des autres, mais on a une chaleur qui se dégage de l'intérieur des plans, qui remet bien en avant la température qu'il fait à l'intérieur des films, même si on voit des gens en pantalon et en chemise. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce mouvement dont il fait place avec... pour revenir sur le mouvement qu'il fait avec sa caméra, cette sorte de gros plan tout en faisant bouger les personnages, ça augmente en fait l'intensité des jeux de puissance qui se font à l'intérieur de son film en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est violent, mais pas dans l'image qu'il montre, c'est une violence intrinsèque qui passe à travers le statut et les castes. Au final, j'ai trouvé que c'était un film très étonnant, avec quelque chose d'assez naturaliste sur la façon dont il filme les enjeux qui sont en Inde, même encore aujourd'hui. Et c'est une belle découverte que je vous recommande.
झांझर लक्ष्मी के बाजे रे, हमारे घर झांझर लक्ष्मी के बाजे। écoutez Culture Prohibée.
S'appelle donc Mantan, c'est disponible là aussi chez Carlotta, c'est signé Shyam Benegal et on va rester chez Carlotta Film, toujours avec toi Damien, enfin on va en parler un peu tous les deux, hein, mais on va parler de trois films hein, qui mettent en vedette le regretté Leslie Cheung. Trois films d'une époque aujourd'hui assez lointaine en fin de compte, hein, puisque il va y avoir d'abord Jeune Rêveur de Clifford Choi de 82.
Jeune Rêveur de Clifford Choi est un teenage movie, ce qui m'a surpris, même si le titre aurait dû me mettre la puce à l'oreille. En fait, dans ce film, on suit une professeure principale qui va pousser certaines de ses élèves de seconde à intégrer une troupe de théâtre du lycée pour jouer une nouvelle production de Roméo et Juliette. L'une d'entre elles est choisie pour interpréter l'héroïne, elle s'appelle Ting Ting, elle va tomber amoureuse de Jackson. Non, je plaisante. Jackson, son partenaire de jeu, qui est également le metteur en scène de la pièce, qui va tenir le rôle de Roméo. Et cette tragédie de Shakespeare va éveiller les sentiments, les désirs de la plupart de ses personnages, mais aussi mettre en avant les problèmes qu'on a souvent dans la jeunesse. Alors, Leslie Cheung, il a des rôles importants à l'intérieur du film, mais c'est pas lui qui va porter le film. En fait, on a un duo d'actrices qui va porter le film. De base, le groupe d'amis, ils sont quatre, et l'introduction, je trouve, les présente très bien. On arrive facilement à identifier qui est qui, laquelle a de l'argent, laquelle n'en a pas, celle qui a des complexes par rapport à son corps, celle qui est timide. Et en fait, ce qui m'a assez surpris, c'est que je trouve qu'il y avait une approche assez... ça va être méchant, mais ça va être compréhensible, assez banal du teenage movie. C'est-à-dire que c'est un teenage movie typique de ce qu'on pourrait faire aux États-Unis ou bien de ce qu'on pourra faire en Europe. On retrouve un mélange d'amitié, de romance, d'humour, avec un petit côté sous-doué dans une scène de triche, dans une salle de classe qui est assez amusant. Où, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une classe unisexe, il n'y a que des filles dedans. Elles vont toutes trouver un moyen de tricher pour essayer de passer... l'examen. Alors, même si on nous propose quatre protagonistes, il y en a vraiment deux qui sortent du lot. C'est pour ça, au début, que j'ai parlé de duo. Mais les romances, elles sont intéressantes. Par exemple, il y en a une, on va avoir un nouveau prof qui va venir pour remplacer la professeure principale qui est tombée enceinte. Il y en a une qui ne l'aime pas, mais qui, avec le temps, va tomber un peu amoureux de lui, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il fréquente les bars à hôtesse et qu'en fait, il n'en a rien à faire d'elle. Oui, heureusement. Il y a aussi l'une des élèves qui est justement très riche parce qu'elle fréquente justement ces bars à hôtesses et une des hôtesses, ça met en avant plusieurs trucs à l'intérieur du film en filigrane, ça met le travail des lycéennes comme celle qui travaille dans le bar à hôtesses, mais ça met aussi bien en avant la présence forte des États-Unis et l'influence qu'ils ont. Par exemple, Jackson, lui, ce qu'il veut faire, c'est aller sur une base militaire et plus tard, il veut partir aux États-Unis pour étudier. Et c'est pour ça que même s'il démourre une amourette avec Ting Ting, très vite, il va se tourner d'elle pour faire autre chose. Il y a même une scène où on le voit faire de l'escrime. Il y a le professeur qui, lui aussi, a voyagé, explique qu'il est allé au Japon. Il y a un peu un message implicite à l'intérieur du film dans lequel... si on veut devenir quelqu'un là-bas, il faut bouger. Ceux qui restent ici, ils sont un peu mal vus. Et ceux qui reviennent, d'une certaine façon, ils sont également mal vus, comme le professeur qui est parti. Alors, il ne faut pas s'attendre à un grand film. C'est vraiment un tout petit film sympa, mais qui se tient bien sur sa longueur.
Après, les Jeunes Rêveurs, Damien, moi, je vais pas les prendre dans l'ordre chronologique, les films. Je vais parler d'abord de Métro Romance, parce que je trouve qu'il dialogue bien avec Jeunes Rêveurs, en fait, puisqu'il est encore question de romance, voilà. Il est question de triangle amoureux. Et alors là, c'est réalisé par Taylor Wong, c'est un film de 84. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer deux femmes différentes dans le métro. Monica, une fille simple et séduisante, et Anita, riche et impertinente. Et alors, ce film a la particularité, alors à la fois de réunir, ce qui est étonnant, hein, le casting féminin d'Executioners et Heroic Trio, qui a été édité par Carlotta, puisque ces deux femmes, c'est Maggie Cheung et Anita Moy. Anita Moy qui, elle aussi, nous a quittés tragiquement trop jeune. La très belle Anita Moy et évidemment Leslie Cheung qui lui est là et qui va... voir dans ce film sa rencontre avec Anita Moy être vraiment un argument commercial, puisque ce sont deux stars de la cantopop qui se rencontrent. C'est là-dessus que le film capitalise. Hein. C'est avant que Leslie Cheung bascule dans un autre type de cinéma. Là, on est toujours dans les films un peu de romance, d'un film léger, un film assez drôle, un film, une histoire de triangle amoureux qui prend des atours de contes de fées dans un univers effectivement assez pop, assez acidulé, on va dire ça comme ça. Mais moi, le film que je garde le plus dans ces films-là qui sont édités par Carlotta avec Leslie Cheung, c'est La jeune fille dragon, c'est de 83. C'est de Hua Shan et c'est adapté du deuxième tome de la trilogie du Condor de Louis Cha. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je vous avais déjà parlé de la légende de l'aigle chasseur de héros de Jeff Lowe dans l'émission, qui était la transposition du premier livre de la trilogie. D'ailleurs, Leslie Cheung est dedans aussi, hein, et s'est tourné 10 ans plus tard. Là, en fait. Le film, moi, il m'éclate particulièrement, puisqu'on va... C'est un wuxia, en fait. Hein, on retrouve les scènes d'action classiques, avec un côté un peu délirant, un peu fantaisiste, comme ça. Mais c'est surtout que c'est la confrontation de stars de mon enfance avec Leslie Cheung. C'est-à-dire, c'est la confrontation de l'aulier. L'aulier, c'est la main de fer, hein, le grand classique du kung-fu de Chung Shang-hua. Et puis, c'est la confrontation aussi avec Shen Quan-tai. Et Shen Quan-tai, inoubliable interprète de justicier de Shanghai, de Shang-Chi. Voilà, et tout ça, ce sont des films qui, moi, sont très haut dans mon panthéon, en tout cas. Et donc, c'est rigolo de voir la star montante rencontrer ces stars vieillissantes dans ce film-là, et qui est... Un vrai film d'arts martiaux, en fait, et qui est considéré par les grands spécialistes de Leslie Cheung, ce que je n'ai pas la prétention d'être, mais qui est considéré comme vraiment un film pivot dans sa carrière, puisqu'il va amener, il va prouver au cinéphile que Leslie Cheung n'est pas qu'un acteur de romance. Voilà. Donc, donc c'est vraiment. Voilà, dans les trois films, moi, c'est mon préféré, la jeune fille dragon. Mais évidemment, on vous conseille les trois, hein, Jeune rêveur, La jeune fille dragon et Métro romance, qui sont tous trois sortis chez Carlotta Film.
花剪开倾心的对话，叫小的他点起香烟，香烟浸没了嘴巴，擦起双手，不想开口，演一出伤心的戏剧，不想伤悲，不想伤气，皆因爱意是谎话，相识不过一天，怎么可作出决定，只不过初见面。 敢保证明天一样意，穿上神褛，外床边挥一挥懒手，喝一口新的甜酒。今天静静问他，恋爱是何代价？乌麻麻实实的他。
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale cinéma asiatique.
Gogo thiên hong, 水波涌涌，几多风吹草动，老古董，酷气妖风，掩饰那睡眼惺忪，一生之中，不分西东。 几多伤心的往事，心中之伤，小伙子，欣赏他那已逝芳华。终于一天得到他，找得失去的快乐，驱走那些冷漠，只得每一角落，抛开那回忆的旧河。穿上神褛，外床边挥一挥懒手，喝一口新的。 走，问问蒙娜丽莎，恋爱是何代价？ 实实的他，笑了笑或交叉，穿上神褛外床边挥一挥懒手，喝一口新的甜酒，问问蒙罗丽莎，恋爱是何代价？哦，问问实实的他，笑了笑或交叉。
Je voulais aussi vous parler toujours chez Carlotta Film du coffret à nuit qui sort. Alors nous on avait déjà parlé dans l'émission il y a très très longtemps de The Secret, Bad People, Love in a Fallen City. Alors rappelez un peu que à nuit, cette femme est une figure importante de la nouvelle vague hongkongaise. Hein. C'est une cinéaste qui va émerger en même temps que Chu Hark, voilà, que de toute cette époque là, qui va voir arriver un vent nouveau qui nous vient d'Asie, qui va souffler sur le cinéma. Et là, il y a un film inédit d'elle, hein, qui a été fait bien, bien plus tard, puisque elle, c'était une star parmi les réalisateurs et réalisatrices. C'était une star au début des années 80. Donc là, elle fait. On était curieux de voir, en fait, ce qu'elle allait faire en 2023, une fois la rétrocession passée, sachant que ces films avaient quand même un contenu. C'est politique quand même, hein, voilà, plus politique en tout cas que les autres acteurs de la nouvelle vague de son époque. Plus directement politique, j'ai envie de dire, moins métaphorique. Et là, il y a donc ce film inédit qui s'appelle Élégie au pluriel, de 2023, qui est pour moi, hein, une sorte de film somme pour Anhui, hein, qui est une réalisatrice qui entretient quand même un rapport fusionnel avec Hong Kong. Et si... ces films de la nouvelle vague empruntaient parfois les chemins de la poésie derrière leurs atours rugueux. Là, Élégie met la poésie au centre, puisque c'est un documentaire sur différentes générations de poètes. Et ça permet à Anhui d'aborder, sans la nommer, la rétrocession, se jouant de toute censure. En fait, Élégie, filmant poésie et dénuement, est une métaphore en fait, de la tragique... destiné de ce qui était, il y a encore très peu, le paradis des cinéphiles, il faut dire les choses. Donc, voilà, c'est ce qui rend ce coffret indispensable, c'est la présence de ce film Élégie, qui est donc un regard porté par Anhui, enfant terrible de la nouvelle vague, sur ce qu'est devenu Hong Kong. Et c'est assez passionnant. C'est un documentaire, hein, c'est pas une œuvre de fiction, mais c'est assez passionnant. Et ça replace, en fait, Hong Kong dans une sorte de... Hong Kong est vu comme un endroit qui a une culture à part, en fait, de la Chine, et qui a ses poètes, qui va connaître son évolution culturelle un peu en parallèle, tout en étant en même temps... en lien avec ce qui se passe en Chine. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir ce film de Anhui, qui s'appelle Élégie, et qui est donc dans ce coffret Anhui, là, qui est sorti chez Carlotta Film. Je voulais finir ce tour d'horizon, moi, Carlotta Film, avec un cinéaste, je crois que t'aimes bien, hein, toi, Thomas, hein, c'est Lino Broca, là, parce qu'il y a Macho Dancer, là, un film de 88 qui vient de sortir chez Carlotta.
Carlotta, qui nous fait découvrir depuis quelques années le cinéma philippin, nous fait redécouvrir le cinéma philippin à travers des grands cinéastes que sont Mike DeLeon, hein, à travers un très beau coffret qu'ils ont édité. Et surtout Lino Broca, dont ils essayent de ressortir, j'ai l'impression, l'intégrale de sa filmographie. Lino Broca, qui est un cinéaste qui était assez critique de la société, de la politique philippine. Ce qui n'était pas forcément évident à l'époque, hein, sous Marcos, hein, où les opposants politiques étaient, on va dire, un peu maltraités. Hein. Et, donc, ce n'était pas évident de faire le cinéma qu'il fait, un cinéma assez violent, un cinéma très âpre, très dur. Et là, Lino Broca, c'était un cinéaste qui était homosexuel. Hein, et donc là, il évoque l'homosexualité à travers ce film Macho Dancer, dont tu vas nous parler, Jérôme.
J'ajouterais dans les compagnons de route de Lino Broca et qu'on avait interviewé, qu'on avait pu avoir dans l'émission, c'est Nick De Ocampo, qui est aussi réalisateur, qui est critique et qui a fait un bouquin incroyable qui s'appelle Une traversée du cinéma philippin entre répression et subversion, qui rejoint bien, hein, là, ce que tu viens de dire, ce titre. Hein, sacré personnage, et avec d'ailleurs une interview où il ne mâchait pas ses mots, mon cher Thomas.
Ah oui, une interview effectivement, une interview où moi j'ai beaucoup ri, une interview où il s'est livré sincèrement, c'était une très belle rencontre, Nick De Ocampo, et qui s'inscrit aussi dans cette veine du cinéma philippin assez, assez critique, hein, qui, où il ne va pas par quatre chemins, et qui rejoint le cinéma de Lino Broca, notamment par rapport à le traitement, la façon dont il traite l'homosexualité. Par Nick De Ocampo est homosexuel, comme Lino Broca l'était. Lino Broca, d'ailleurs, qui assistait à des spectacles qu'a filmé des spectacles de performeurs filmés par Nick De Ocampo, sur qui Nick De Ocampo a fait un documentaire qui a été projeté à la dernière édition du Festival du film d'Amiens.
Et oui, et nous avons pu découvrir qu'il y avait plusieurs Spider-Man. Voilà, et des Spider-Man, je n'en dirai pas plus. Il faut voir le travail de Nick De Ocampo. Alors, Macho Dancer, ça raconte quoi? Ben là, on est en plein dans le sujet de l'homosexualité. Hein. C'est Paul qui est un adolescent, qui est beau gosse, hein, et il y a son amant américain qui s'en va. Et du coup, Paul décide de quitter sa province natale pour rejoindre Manille. Hein. C'est un scénario en fait assez classique, hein, de qu'on retrouve souvent dans les films de Lino Broca, c'est-à-dire ce fait de devoir aller, dans la grande ville, la ville de tous les péchés, la ville de toutes les subversions aussi. Et là, il doit y aller parce que il a besoin de pourvoir aux besoins de sa famille. Il va être pris sous son aile par un call boy populaire qui s'appelle Noël. Et il va pénétrer l'univers du striptease masculin. Et à partir de là, prostitution, drogue, corruption policière, enfin l'univers tellement mignon de notre ami Lino Broca, hein, qui généralement ne fait pas dans la dentelle, hein, quand il y va. Alors attention, c'est un cinéma subtil, hein, mais je veux dire, en tout cas, il affronte les sujets avec dureté et il y va. Je veux dire, il a pas peur de ces sujets. Et là, il fait bien sûr, comme souvent, hein, un lien entre l'économie et la sexualité aux Philippines. Et c'est ce qui est étonnant, en fait, avec ce film, parce que ce film, c'est une sorte de mélodrame dur, j'ai envie de dire, une sorte de mélodrame sans pathos, hein, et c'est un film qui se refuse à tout cliché et qui livre au spectateur une œuvre crue, en fait, qui répond à certains codes quand même d'un cinéma populaire. D'ailleurs, c'est pour ça que Lino Broca est un cinéaste, malgré ses sujets difficiles, qui est un cinéaste assez accessible, en fait, en vérité. C'est assez désarçonnant aussi, en particulier via son traitement de la transition démocratique. Parce qu'il ne fait pas de cadeau à Marcos, mais il ne fait pas de cadeau non plus aux politiciens qui trahissent un peu les idéaux, quoi. Voilà, c'est en fait un film de Broca qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à sa première vision, et qui continue, en fait, d'interroger la société philippine, que ce soit sociétalement, que ce soit économiquement, et évidemment sa communauté homosexuelle. Donc c'est un film puissant, hein, c'est un film vraiment assez impressionnant. Alors c'est pas le meilleur film de Lino Broca, mais ça reste un film vraiment passionnant, puisqu'il traite d'une période qui n'est en fait pas souvent traitée, hein, dans le cinéma philippin. Donc ça s'appelle Macho Dancer. C'est un film de 88, c'est disponible chez Carlotta Film.
Comme tu viens de le dire, Jérôme, Lino Broca, qui est un cinéaste à la fois populaire et subtil, hein, parce qu'il sait aussi bien dresser des portraits d'homosexuels dans une société plutôt répressive, mais aussi des portraits de femmes. Il peut aussi bien faire des films d'action comme Cain et Abel, hein, un film très dur, très violent graphiquement, mais aussi il dépeint très bien la violence sociale à travers ses films, des films qui, je le rappelle, sont souvent très âpres, très durs, avec un montage très sec. Donc Lino Broca, si vous vous êtes pas encore précipité sur les éditions Carlotta Film de Lino Broca, allez-y, vous n'allez pas être déçu, surtout si vous aimez le cinéma âpre, dur, violent, pessimiste.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Eh bien, on va rigoler. Mais oui, t'as raison, Thomas. C'est vraiment une belle découverte que Lino Broca, qu'on découvre depuis plusieurs années grâce à Carlotta Film. Hein. Maintenant, il faut le dire, le travail de Carlotta Film, d'exhumer tous ces films, toutes ces pépites, est vraiment indispensable. Hein. Comme d'ailleurs, là, le travail de Roboto, hein, Roboto Film, dont on va parler, parce que Roboto Film, c'est pareil, ils commencent à avoir un catalogue assez dément, hein, et eux, ils se consacrent qu'au cinéma japonais. Alors, ouais, j'étais intrigué là par les films dont je vais vous parler. Moi, j'avais jamais vu. D'ailleurs, c'est un film qui a longtemps été réputé complètement disparu. Il y a eu une copie il y a quelques années. Je crois que c'est Haro qui avait sorti ça. Personne en Occident n'avait vu ce film et sa suite tardive. Je veux bien sûr parler de L'Homme Invisible, hein, et des films produits par la Daei. Et on va les prendre dans l'ordre là, dans ce que sort Roboto Film. Il y a d'abord en 49 le film de Nobuo Adachi, L'Homme Invisible apparaît. Et dans L'Homme Invisible apparaît, en fait, on a des scientifiques qui découvrent le secret de l'invisibilité sur la base d'un concours, voilà, comme ça, ils se tirent un peu la bourre entre eux. Mais de mauvaises personnes vont en faire un usage intéressé. Simplement, en fait, ils vont s'en servir de l'invisibilité pour aller piquer les bijoux, les salauds. Et des policiers vont enquêter donc sur ces larcins. C'est un film qui est étonnant d'ailleurs parce que bon voilà, il a un très beau noir et blanc. On sent vraiment que le film de 33 de James Whale, inspiré du bouquin d'Herbert George Wells, il a vraiment marqué les esprits, hein, puisqu'ils ont même jusqu'à reprendre, grâce aux super effets spéciaux de Eiji Tsuburaya, la fameuse scène où l'homme invisible enlève ses bandelettes, comme ça, et que derrière, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est une scène très impressionnante qui marque les esprits quand on la voit pour la première fois. Moi, je sais que c'est un de mes films de chevet, la version de James Whale. Et d'ailleurs, le bouquin que j'avais en livre de poche jeunesse est resté, je l'ai toujours dans ma bibliothèque. C'est un livre qui m'avait particulièrement marqué, plus que d'autres en tout cas. Et Eiji Tsuburaya, c'est une date, hein, c'est d'ailleurs précisé dans les bonus, hein, c'est que en fait... il va prendre une autre dimension de Tsuburaya dans les années à venir. C'est le grand spécialiste des effets spéciaux. Il sera à l'origine de ceux du Godzilla, d'Ishiro Honda, hein, ou Inoshiro Honda. On l'appelle Inoshiro ou Ishiro, selon les sources. Et donc, ce type est vraiment une légende. Et le film... En fait, c'est plus un film policier, hein, mais il présente un beau personnage tragique, en fait, dans la lignée des grands monstres de la Universal, qui est un personnage qui a un petit côté émouvant, comme ça. Et le film a un charme vraiment désuet, et il devrait plaire aux amateurs de films de cette époque. Et assez moins bon que le travail de James Whale, évidemment, mais... C'est une curiosité. C'est une curiosité. Alors, encore plus curieux, c'est sa suite de 57, alors qui vient donc quand même presque 10 ans après, hein, qui s'appelle L'homme invisible contre la mouche humaine. Alors là, l'homme invisible ne va pas en fait affronter une mini-mouche. Hein. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Alors, je sais, le titre est merveilleux. Hein. Tout de suite, moi. Quand j'ai vu ce titre, je savais que j'allais regarder ce film. En priorité, dans les films que j'ai reçus, c'est celui-là que je voulais voir, bien évidemment. C'est un super titre. Mais en guise de mouche, en fait, on n'est pas chez Kurt Neumann et sa mouche noire. Hein. On est plutôt chez Jack Arnold, avec son homme qui rétrécit, d'après Richard Matheson. Alors, un homme qui rétrécit, qui serait croisé, ils connaissent leur classique, les Japonais, avec le cobaye du bouquin de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon, puisque plus il va rétrécir, plus il va appliquer sur lui la potion qui fait rétrécir, plus il va un peu perdre la boule. Voilà. Hein. Et donc, il va perdre la raison. Et comme le premier opus, en fait, ce film est charmant, mais il souffre quand même d'un certain manque de rythme. Et c'est avant tout un film policier. On est vraiment dans, dans le même type de, d'univers que le premier, puisqu'on a un capitaine de police qui fait face donc à des meurtres étranges, une multiplication de meurtres étranges. On ne voit jamais l'agresseur. On devine très vite qui c'est, évidemment. On ne voit jamais l'agresseur, mais on entend un bourdonnement de mouches. Voilà. Juste avant que le meurtrier frappe ses victimes d'un coup de poignard dans le dos. Alors, l'enquêteur va vite découvrir que ces victimes ont un point commun. Elles ont toutes été alarmées au même endroit. Et bien sûr, ce sont des victimes d'expériences militaires. Voilà, pour réduire la taille humaine à la taille d'une mouche. Et en même temps, l'enquêteur va se demander si ces expériences n'ont pas un rapport avec celles menées par le docteur Awakaya sur un rayon pouvant rendre invisibles des objets. Et tout ça va faire un gloubi-boulga qui va nous amener cette série B charmante et surtout... Série B qui comporte quand même une scène assez démente, d'un érotisme assez torride quand même pour 1957, puisqu'on a une belle danseuse en bikini sur scène dans un noir et blanc sublime qui dévoile sa poitrine. Alors, mais surtout, cela reste chaste. Hein, on est en 57, dans des plans très suggestifs. Et il se trouve que, un peu plus loin dans le film, notre petit homme mouche va se retrouver à marcher sur le corps de cette sublime jeune femme. Voilà. Donc c'est une scène pour tous les érotomanes que je vous conseille vivement. Le noir et blanc est sublime, hein, par contre, parce que techniquement, ce sont des films d'une grande beauté plastique. C'est un vrai bonheur de voir ces films-là. Je voulais aussi vous parler... Alors, je vous avoue que C'est des titres que j'ai découverts grâce à Robotofilm. Je savais que c'était culte, mais j'ai découvert ce personnage de Thorasan, là, qui est honoré d'un coffret donc chez Robotofilm, parce que j'ai des amis qui étaient allés au Japon qui m'avaient dit « Ah, Thorasan, il y a Thorasan partout ». Moi, Thorasan, alors j'avais la prétention de connaître le cinéma japonais. On me dit si, Thorasan, c'est impossible que tu n'aies pas vu un film avec Thorasan. Bon, voilà, moi ça me disait rien. Et pourtant, tous les ans, on participe au festival du cinéma des arts nippons, tout ça. On projette des films avec l'équipe des films de la Gorgone. Et je me disais, mais c'est incroyable, je connais pas Thorasan. Et ben oui, c'est un trou dans ma cinéphilie. Thorasan, en fait, c'est 48 films. Alors ça, donc évidemment, c'est une série qui est ultra culte au Japon. Quand on va à Tokyo, et à la station Shibamata, au sortir de la station, il y a une énorme statue en bronze. Eh bien, c'est celle de Thorasan, en fait, ce personnage de fiction. Et en fait, c'est le héros de cette série qui est réalisé quasi intégralement par un réalisateur qui est né en 1931, qui doit toujours être de ce monde aujourd'hui. En fait, il n'y a que deux films qu'il n'a pas réalisés. Il a réalisé les 46 films sur les 48 de cette série de Thorasan, et il s'appelle Yamada Yoji. C'est l'œuvre de sa vie. Et tout est dit, hein, en fait, dans ce qui est marqué sur l'affiche, c'est le plus aimable des vagabonds. Il est gentil, mais il est quand même adepte de la dive bouteille, hein, ce qui le rend parfois, moi, je trouve, assez désagréable. Il est joué par Hatsumi Kiyoshi, qui, dans chacun des films, en fait, le scénario, c'est toujours le même. Il vit des déceptions relationnelles, amoureuses. Et l'occasion, à chaque fois, est donnée, du coup, au metteur en scène, de glorifier, via le parcours de notre sans-domicile fixe au cœur d'artichaut et aux sandales usées, parce qu'il est toujours en sandales, un Japon traditionnel, en fait, en vérité. La nostalgie et la mélancolie engendrées par le personnage, il y a même des titres qui s'appellent la mélancolie, par exemple, ça, dans la série de films, expliquent en partie le succès de Thorasan, qui explose dans un Japon... en pleine mutation, hein, on a la fin des années 60, début des années 70, aujourd'hui devenu une île où règne un ultra-libéralisme forcené. Donc à chaque fois, c'est une sorte de valeur-refuge, on va dire. Hein. On va se réfugier dans une certaine idée du Japon qui est incarnée donc, par Thorasan. Même si aujourd'hui, le succès est quand même moins au rendez-vous, Thorasan jouit toujours d'un tel culte qu'il a été adapté en série télé, évidemment. D'ailleurs, à un moment... j'ai potassé un peu sur internet, visiblement les scénaristes ont tué Thorasan et ça a déclenché un vrai scandale au Japon, donc Thorasan a dû revenir. Il y a aussi un dessin animé Thorasan où Thorasan est interprété par un chat. Voilà, donc la mignonnerie, le côté kawaii à fond. Sans compter tous les produits dérivés, on peut acheter de tout. Et il y a même des pachinko Torasan. Vous savez ce que c'est que les pachinko? C'est un truc typiquement japonais. C'est en gros la machine à sous qui rencontre le flipper. Voilà. Donc Robotofilm va nous permettre de découvrir, moi c'est une découverte pour moi, eh bien ce coffret qui regroupe les 5 premiers films, tout un pan de la culture japonaise qui est quand même, on peut le dire, relativement méconnue dans l'Hexagone. On ne peut que les féliciter pour cela.
A giant monster bird comes back to life.
Get a rifle! Bring me a rifle! Quick!
The legend of dinosaurs and monster birds.
It's alive! I saw it!
Et puis moi, je vais terminer l'émission là-dessus. Je félicite Robotofilm parce que bon, ils sortent un film qui m'avait bien éclaté en VHS. Je crois que c'était UGC qui avait sorti ça, vidéo, un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr à 100%, mais c'est un film de 77 de Junji Kurata, qui est un gros panard qui est culte, hein, qui s'appelle Les Monstres de la Préhistoire. Alors c'est culte pour les bisseux, évidemment. Hein, je tiens à souligner d'ailleurs que j'avais jamais vu le film dans une copie aussi belle. La copie est sublime. Parce que moi, quand je l'avais maté du temps de la VHS, évidemment, du temps des vidéoclubs, c'était moins beau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, c'est simple. C'est quand les kaijus rencontrent les dents de la mer. Hein, on est en 75, alors 77, les dents de la mer, donc on cartonnait juste avant. La Toei a besoin de sous. Donc, la Toei commande un film de monstres. Et on se dit que le film de Spielberg a cartonné. Donc, on va faire, en fait, une histoire qui est à l'identique hein, du film de Spielberg, voilà, où on se retrouve dans un endroit où on ne veut pas écouter, comment dire, les scientifiques, parce que, les lanceurs d'alerte, on va dire ça comme ça, qui préviennent qu'il faut évacuer ce coin touristique, sinon on va être attaqué par des monstres préhistoriques, voilà. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est totalement voulu. Et les producteurs vont engager le spécialiste des effets spéciaux, enfin plein de spécialistes, mais surtout Fuminori Ohashi, pour créer les deux dinosaures, alors, qui sont en latex, évidemment, tradition japonaise oblige, un plésiosaure et un Renforhynchus, que je ne connaissais pas. Voilà, mais en tout cas, là, dans le film, il est pas mal. Hein. Donc, en fait, comme son modèle, en fait, le film de Spielberg, Les Monstres de la Préhistoire, va exploser son budget. On va être à 750 millions de yens, c'est le plus gros. Alors, je rappelle qu'au départ, la compagnie, elle voulait éviter la faillite, elle voulait faire un film à succès. Ils se sont dit, ça va cartonner dans le monde entier, parce que bon, Les Dents de la Mer version monstre préhistorique, ça va cartonner. Et le film, en fait, il va être tourné sur une très longue période. Le tournage va s'éterniser, comme le Spielberg. Et là, ça va durer 6 mois, ce qui est énorme au Japon. On a souvent chroniqué du cinéma japonais. On s'étonnait, il était capable de faire 3 à 4 films sur la même année, le même réalisateur avec la même équipe. Bon, là, on en est loin. Là, il n'y arrive pas. Et en fin de compte, le film va être un film trop étrange. Déjà, le scénario, c'est copie. C'est même un plagiat du scénario des Dents de la Mer. Ensuite, le film est vraiment étrange parce que c'est un film qui se veut tout public, c'est un blockbuster. Et il y a des scènes hyper gore dans le film. Surtout en plus dans un blockbuster avec des personnages qui se font démembrer. Ça saigne à mort. Il y a un cadavre de cheval sans tête, c'est bien dégueulasse. Et puis le film est très étrange parce qu'il va alterner ces moments complètement bis avec des moments totalement dans la culture du cinéma nippon, c'est-à-dire des moments hyper contemplatifs, comme ça, qui cassent le rythme du film. On ne sait pas trop où on est. Et puis, il y a la musique. d'un jazzman, Masao Yagi. Alors, tous ces jazzman qui font des super BO dans les films japonais, dont on a dû un mal de chien à trouver les disques, voire certains sont même jamais été pressés. Et là, la musique, elle est complètement dingue, elle est décalée, en fait. Et c'est du disco, en fait, hein, une sorte de disco jazz très, très étrange. Et au final, c'est un film où kaiju et gore copulent pour accoucher d'un objet filmique non identifié. Alors, par contre, ok, il a plein de points communs avec le Spielberg, mais alors contrairement au Spielberg, le film va être un four pour la Toei, qui voulait se refaire la fraise, qui va se récupérer, par contre très étonnant, avec les recettes faites en URSS, alors dirigé par Khrouchtchev. Le film là-bas va être un carton monumental. Voilà. Peut-être qu'il y a une sorte de nostalgie des films merveilleux de Ptouchko qu'on adore dans l'émission. Hein, voilà. L'occasion pour moi de saluer Mathieu Red, d'ailleurs, hein, qui est un vrai, vrai fan de Ptouchko, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger récemment. Et en tout cas, si vous êtes des fous de cinéma bis, vous allez, tout comme moi, prendre un pied monstrueux. Hein. Moi, j'ai pris un gros panard à revoir ce film. Donc, c'est Les Monstres de la Préhistoire. Hein. C'est disponible chez Robotofilm, comme les derniers films dont on vient de parler dans l'émission. Là. Donc, merci à Robotofilm. Et puis, à bientôt pour de nouveaux films pleins de dinosaures, de chevaux à tête coupée et de personnes démembrées. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédi, la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.